55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Bonsoir, bienvenue à vous tous qui suivez à votre avis votre émission d'interaction sur VO Afrique. Au micro, Nanit Talani depuis le studio 15 à Washington, la capitale américaine. En Afghanistan, les talibans reprennent le pouvoir après le départ des Américains, 20 ans après leur intervention pour chasser les talibans du pouvoir. En Afrique de l'Ouest, les soldats français de Barkhane vont plier bagages cette année. Ce retrait intervient 8 ans après le début de cette opération antiterroriste et la guerre dans les pays du Sahel est pourtant loin d'être gagnée. Quelle leçon pour l'Afrique et pour les Africains. Venez réagir à l'antenne de VO Afrique en appelant le 001-202-205-2633. C'est le 001-202-205-2633. Nous avons accueilli beaucoup de commentaires sur la page Facebook et nous allons vous appeler tout de suite. La première réaction que nous allons lire pour ouvrir cette antenne vient d'Angelou. Et sous, il dit que relater honnêtement ce qui s'est passé au Mali avant l'intervention de l'armée française. Pour rappel, les rebelles djihadistes étaient déjà à moins de 100 km à Bamako et avançaient. Pourtant, le Mali disposait d'une armée avec plusieurs généraux dans les casernes. Angelo Essou n'a pas laissé son numéro de téléphone, mais selon lui, il semble affirmer que la présence des soldats Barkhane était quand même importante pour maintenir une stabilité au Mali. Dani Loulou lui estime que les Africains doivent comprendre une chose par rapport à ce qui s'est passé en Afghanistan, que les conflits qu'ils divisent sont internes. L'effet de croire que les Occidentaux sont plus intelligents ou ont plus de ressources pour terminer leur conflit, c'est une grande bêtise. Pour lui, les Africains donc doivent se lever et trouver des solutions à leurs problèmes, mais ça ne sera pas les Occidentaux qui vont apporter la solution. Alors Freddy, nous allons retrouver Freddy Zokenge en République démocratique du Congo. Bonsoir Freddy.
Bonsoir Afrique et bonsoir à tous les auditeurs.
Alors vous dites que si nos gouvernements ne tiennent pas compte de ça, donc supposons de ce qui s'est passé en Afghanistan, nous allons vivre le pire. À quoi faites-vous allusion quand vous parlez du pire?
Évidemment, parce que l'Afghanistan, il faut d'abord voir les moyens qui ont été mis en jeu par les États-Unis et la coalition occidentale. Ce ne sont pas les mêmes moyens qui sont mis, par exemple, en Afrique pour une opération comme Barkhane. Les moyens qui ont été mis en Afghanistan étaient des moyens colossaux. Pendant plus de 20 ans, l'Amérique a investi, l'OTAN a investi, mais après 20 ans, on a vu ce que ça donnait. Et si en Afrique, où les mêmes moyens ne sont même pas mis en jeu par rapport à ce qui s'est passé en Afghanistan, je pense particulièrement au Mali, où l'armée française va bientôt se retirer après 8 ans de présence, mais ce serait le pire que ce que l'Afghanistan a vécu. C'est pourquoi il faudrait que nos dirigeants prennent déjà toutes les précautions à ce moment, parce que si nous allons dans la même longueur d'onde avec l'Afghanistan, en tout cas ce qui s'est passé en Afghanistan, ça sera le pire de ce que nous avons vu en Afrique.
Ok, vous parlez de prendre les mesures, mais chaque pays africain a une armée.
Mais chaque pays africain a une armée. Il s'agit de quelle armée? Je ne fais même pas parler de termes armée actuellement. Moi, je suis en République démocratique du Congo. Il suffit de constater la mafia au sein de l'armée. Et récemment, le président de la République l'a même dénoncé quand il était du côté de l'Est du pays. Il a dénoncé la mafia au sein de l'armée. Il y a une corruption à une échelle que vous n'avez jamais vue au sein de l'armée. Les recrutements même posent des problèmes. Au lieu que l'armée puisse rassurer la population, maintenant c'est l'armée qui fait peur à la population, parce qu'à chaque fois on se demande, on dit, est-ce que réellement ce sont des gens qui sont allés servir les drapeaux ou bien ce sont des gens qu'on a ramassés. Donc, quand vous tenez compte du recrutement, de la formation même, et du comportement des antivaleurs au sein de l'armée. L'armée, c'est seulement sur le plan de la forme. Mais au niveau du fond, cela laisse à désirer, franchement.
Merci beaucoup, Freddy. Passez une bonne soirée depuis Lubumbashi dans le Katanga. Notre prochain intervenant, c'est Amadi John. Il intervient depuis Mbour au Sénégal. Nangadef, Amadi. Ok, vous dites que si le gouvernement de Joe Biden a commis une erreur qui sera lourde de conséquences, de quelles conséquences parlez-vous?
Les conséquences, c'est que les intérêts américains dans la région, avec l'arrivée des talibans au pouvoir à Kaboul, seront très fortement menacés. Et maintenant, les pays amis, comme les pays arabes et au-delà, peuvent également avoir quelques conséquences qui sont très néfastes à leur niveau.
Ok. Et vous faites aussi une relation... Oui, on vous entend bien, merci. Vous faites aussi un parallèle avec le G5 Sahel. Quelle est la leçon pour les Africains?
Ici, au niveau de la sous-région, c'est-à-dire dans les pays communément appelés les 5 du Sahel, c'est un problème très compliqué. Parce que les gouvernements n'ont pas cherché à trouver une autre solution que militaire. Or, je pense que le problème du djihadisme n'est pas militaire. Voilà le cas qui s'est concrétisé en Afghanistan. Les Américains même se sont rendus compte que la solution n'est pas militaire. De même, au niveau de la sous-région, le problème du djihadisme n'est pas militaire, mais plutôt un problème de sous-développement, un problème de misère. La population, la majorité de la population souffre et ils sont donc faciles à intégrer le mouvement djihadiste. Vous comprenez bien. Donc, il faut trouver du travail aux jeunes, il faut éduquer les gens pour pouvoir échapper à ce virus. Tant que cette politique-là ne change pas à ce niveau-là, il n'y a pas de solution. Voilà, donc, au niveau de notre sous-région, c'est ce que je vois, moi.
OK. Merci d'avoir exprimé votre point de vue. En Côte d'Ivoire, Moussamou, bonsoir. Vous avez laissé votre numéro de téléphone pour qu'on vous appelle. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Quelle relation entre ce qui s'est passé en Afghanistan et le Sahel? Quelles leçons les Africains peuvent en tirer?
Allô?
Allô, je vous écoute, monsieur Moussa.
Oui, s'il vous plaît, répétez, je n'ai pas bien compris.
Vous avez laissé votre numéro de téléphone sur Facebook. Quelle est la relation entre ce qui s'est passé en Afghanistan et ce qui se passe au Sahel? Est-ce qu'il y a une relation? Quelles sont les leçons que les Africains peuvent tirer du retrait américain en Afghanistan et toute la débâcle qu'il y a là-bas?
Ah, vraiment, voilà, ce que je peux dire, c'est la paix, voilà, tout ce que les gens peuvent faire pour maintenir la paix, voilà, dans le monde, qu'ils le fassent, voilà. Il ne faut pas regarder les intérêts personnels, voilà, parce que, voilà, il faut regarder l'intérêt général, c'est important, ça prime, l'intérêt général prime beaucoup. Voilà, c'est ce que je peux dire, en tout cas.
On a vu la débandade en Afghanistan, est-ce qu'on peut craindre la même chose pour le Sahel après le retrait de l'opération Barkhane?
Bon, on va espérer. Sinon, vraiment, c'est un peu mitigé, mais on va espérer. En tout cas, on espère le meilleur.
Ok, quand vous dites qu'on va espérer, qu'est-ce qu'on va espérer?
On va espérer la paix, parce que voilà, des gens, voilà, dans leur manière de gérer les crises, voilà, ils espèrent la paix. Voilà, mais souvent, voilà, ça désire autre chose. Souvent, ça devient une chose, donc c'est un peu compliqué. Voilà.
Mais on dit souvent qui veut la paix prépare la guerre.
En tout cas, pour avoir la paix, il faut faire la guerre aussi, même, c'est ça.
Bon, nous vous remercions. Bonne soirée depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, M. Moussa.
Ok, vraiment, merci beaucoup et à vous aussi.
Nous avons une réaction de Wentouan Ezekiel Bamogo. Il parle de cette débâcle de l'armée afghane qui vient encore confirmer cette situation, qui dit qu'au lieu de donner chaque fois du poisson à quelqu'un, apprends-lui plutôt à pêcher. Et donc, lui, il estime que les Africains doivent apprendre des leçons et se prendre en charge comme beaucoup d'autres interlocuteurs avant lui l'ont déjà dit. Au Mali, nous avons Gérant Ibé. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors voilà ce que votre commentaire dit en partie. Les Africains ne pouvons pas comprendre qu'avec toutes ces armes de puissance extraordinaire que les armées françaises et autres aient échoué en un mot. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Bon, en fait, nous ne pouvons pas comprendre que toutes ces puissances-là qui sont au Mali, avec des armes très, très puissantes et qui n'arrivent pas à mettre fin à cette guerre. Donc, si vous voulez que la population puisse faire confiance à vous, en ces puissances-là, il faut qu'ils fassent aussi beaucoup d'efforts et montrent des bons résultats à la population malienne et qu'on puisse continuer à les soutenir. Il y a trop de restrictions quand d'autres viennent qu'ils partent, d'autres viennent qu'ils ne partent pas plutôt. Mais tout ce que nous demandons à ces forces militaires qui sont là, c'est de travailler conjointement avec l'armée malienne, de faire face à ces djihadistes-là qui sont en train d'envahir le Mali. Donc on craint vraiment que ça ne soit pas le cas de l'Afghanistan.
Celui qui est intervenu avant vous a évoqué aussi le manque d'emploi qui peut pousser les jeunes à entrer dans les mouvements djihadistes. Est-ce que vous partagez son avis?
Oui, je partage son avis. Et ça, c'est le côté du gouvernement malien qui n'arrive pas aussi à satisfaire le besoin en matière d'emploi pour les jeunes. Et dans la région de Mopti, moi, je suis de la région de Mopti. Je suis de la région de Mopti, ma maman est là-bas, toute ma famille d'ailleurs est là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui maintenant acceptent d'aller dans le djihadisme parce qu'ils n'ont pas d'emploi, le gouvernement ne fait rien pour eux. Et à un moment donné, on avait même entendu que, j'ai même des prêts pour cela, que le gouvernement avait donné des trucs, de l'argent, des fonds à ma tête qui est là pour l'emploi des jeunes et pour la promotion d'emploi des jeunes. Et jusque-là, on n'a pas vu de résultats. Ça, c'est fait depuis 2018. Voilà, donc les jeunes, maintenant, sont en train de... Ils apprécient les mouvements djihadistes, le banditisme, aller prendre des trucs des hauts. Hein. Voilà, ils préfèrent ça par rapport au gouvernement. Eux-mêmes, ils défendent ces djihadistes-là par rapport au gouvernement. Parce que le gouvernement n'arrive pas à satisfaire le besoin en matière d'emploi pour ces jeunes-là. Et moi-même, qui suis là, je suis un jeune aussi sans emploi. Mais malgré tout ça, on n'a pas voulu prendre des idées vraiment qui sont contraires à la réalité d'un État unitaire. Voilà.
Merci beaucoup, Gérant. C'est une très bonne résolution que vous avez faite de favoriser la paix.
Merci beaucoup. Merci.
Diallo Tcherno Oumar Diallo, vous nous appelez depuis Conakry, en Guinée. Bonsoir. Allô, Diallo.
Diallo, l'auditeur est au CVOA.
Merci. Vous évoquez le fait que le cas d'Afghanistan doit être un exemple, mais aussi que les pays du Sahel et d'Afrique doivent compter sur leurs propres moyens de combat. Est-ce que ces moyens n'existent pas déjà avec les armées aussi, l'Union africaine?
Oui, tout à fait. Je pense qu'à mon avis, cette armée n'existe pas parce qu'on a vu lorsque les djihadistes insurgés ont quitté vers la Libye pour le nord du Mali. Il était au port de Bamako. Il n'a pas eu l'intervention de l'armée française pour les empêcher de faire ce que les talibans ont fait, d'accéder au palais présidentiel. Je pense qu'il y a plein d'États africains qui comptent sur les forces étrangères. Et notamment, on a vu, ça soit en Centrafrique, il y a aussi des années le Tchad, et beaucoup d'autres pays aujourd'hui qui comptent sur le soutien de ses alliés. Alors que c'est là le problème, parce que ses alliés, ils sont dans votre pays à cause de leurs intérêts. Une fois que leurs intérêts finissent, ils quittent. C'est le cas en Afghanistan, comme a souligné le président Biden. L'intervention américaine en Afghanistan était liée aux menaces djihadistes sur le sol américain. C'était ça, c'était neutraliser l'ennemi. C'était pour ne pas qu'Al-Qaïda puisse faire là-bas une base arrière et attaquer aux intérêts des États-Unis dans la région et aux États-Unis. Je pense que les États africains doivent finir leurs forces et céder à entraider pour améliorer la formation. Il faut former les militaires Aujourd'hui, c'est le cas du Sahel. Demain, on ne sait pas. Mais je pense que ce qui s'est passé au Grand Lac et au Nigeria, au Cameroun et au Mali, tout près de chez nous ici, doit servir d'exemple parce que la force républicaine a été toujours déroutée par les terroristes qui ne sont pas armés officiellement, mais les armées des pays qui sont là sont officiellement armés et équipés avec des millions de dettes parfois par nos amis alliés, mais ils ont toujours été victimes parce qu'il y a certains endroits même, les djihadistes, ça a été le cas récemment au Burkina Faso, ils s'en prennent aux bases militaires. Donc je pense que c'est extrêmement dangereux. À présent, les terroristes ont eu du courage d'aller s'en prendre aux militaires là où ils sont basés. C'est pas sur le terrain du combat, c'est dans leur responsabilité. Je pense que le cas des talibans d'Afghan doit servir des exemples aux États africains. Je ne dis pas de demander au retrait immédiat aux forces étrangères sur notre territoire, mais il faut profiter de la présence des forces étrangères pour former et pour des éventuelles attaques au cas où les forces étrangères vont se retirer, comme a été le cas avec les Américains en Afghanistan.
D'accord. Donc nous comprenons que les forces étrangères doivent être mises à profit pour la formation des armées locales. Nous repartons au Sénégal, mais cette fois c'est pour retrouver M. Wani Johnson Sombou. Bonsoir. Wani.
Bonsoir, madame.
Vous avez certainement vu toute la débandade en Afghanistan après le départ des troupes américaines, mais aussi l'entrée surtout des talibans dans la capitale. Quelle est la leçon pour les Africains avec l'opération Barkhane, surtout qui va se retirer du Sahel, mais aussi nous avons vu qu'au Mozambique, le Mozambique est en train d'appeler la coalition des forces internationales pour combattre aussi les djihadistes.
En fait, dans le sens que j'en tire, le monsieur de tout à l'heure l'a déjà évoqué, c'est d'abord au niveau de la formation de nos armées. Mais ça ne suffit pas seulement de former une bonne armée, il faut avoir également les moyens de la formation, mais surtout de un bon armement pour pouvoir faire face à ces forces, notamment les djihadistes qui, il faut le rappeler, ne mènent pas une guerre conventionnelle. Ils se servent surtout de la population, ils sèment la peur chez les populations pour pouvoir gagner des terrains. Et la plupart, c'est des terrains qui sont propices à la guérilla, et c'est des terrains où sont concentrés une partie des richesses du pays, ce qui leur permet d'acquérir les armements. Et autre problème aussi, il faudra essayer de couper justement ce qui sera compliqué, c'est réseaux de ravitaillement de ces rebelles, savoir où partent les armées. Tout ça, ça englobe un peu la formation. Mais en plus de ça, tant qu'on n'a pas une force armée régionale solide, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas tout laisser dans le dos d'un seul État ou de quelques deux ou trois États. Vous savez, en ce qui concerne le Mali, le Burkina Faso et consorts, pour moi, il y a eu une erreur de stratégie. Et la première, c'est quoi? C'est d'avoir écarté, par exemple, un pays comme le Sénégal qui a une expérience. C'est vrai qu'il y a le Tchad qui est là. Le Tchad, on connaît bien la force de son armée, mais quand même, vous ne pouvez pas élaborer une stratégie de contre le terrorisme et écarter un pays comme le Sénégal. Je pense que dès le départ, même si le Sénégal n'est pas touché par cette question de terrorisme, il reste concerné parce que sous la menace perpétuelle de ces djihadistes. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui à ces djihadistes? C'est justement d'avoir accès à la mer. Et la mer, à partir du Mali, c'est le Sénégal. C'est un peu compliqué parce que, d'après ce qu'il dit et ce qu'on voit, le Sénégal a une armée et une police bien formées. Mais tant que nos élus, nos États n'apprennent pas à bien former leurs armées, ça ne marchera pas. Je suis désolé de le dire, mais on a l'impression qu'au niveau de nos États, ils ne forment les forces de sécurité que pour réprimer les opposants. La force Barkhane va quitter. Qu'est-ce qu'elle va laisser au Mali, à part un pays en lambeaux? Ils ont des intérêts dans le pays, et ça se voit, les Maliens, à un certain moment, ils ont compris le jeu que c'est en train de jouer à la France. Il va falloir qu'il y ait une coopération très franche entre les puissances occidentales qui ont beaucoup plus d'expérience dans ce genre de combat, et essayer de faire en sorte que le jour où ils quitteront une zone, qu'ils puissent laisser derrière eux une armée bien formée et bien équipée.
Merci beaucoup. Nous retenons qu'il faut donc que les pays africains s'investissent dans leur armée pour former des gens qui vont défendre les intérêts de leur pays. Nous vous remercions et bonne soirée à Dakar. Au Mali, Diarra Kanyoumé veut intervenir depuis son village natal Soninké. Bonsoir Diarra.
Bonsoir madame, bonsoir à toutes les relations des pays africains et nos millions d'auditeurs.
Vous avez suivi vos prédécesseurs qui estiment que la solution pour la sécurité dans le Sahel, ce sont les armées qu'il faut former. Il faut former des militaires qui seront là pour défendre les intérêts du pays. Mais voilà, les djihadistes sont déjà là. Est-ce qu'on a encore le temps de former ces militaires? Que faut-il faire en ce moment-ci?
Bon, à mon avis, je pense que vraiment le temps passe vite, parce que depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il y a des armées qui sont en train de former, il n'y a aucun vraiment résultat. Il faut imaginer aussi, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs interventions militaires au Sahel, surtout au centre, surtout dans les régions. Mais jusqu'à aujourd'hui, il faut imaginer vraiment les attaques sont multipliées, surtout dans mon pays comme le Mali. Donc je pense que vraiment si l'armée malienne n'a pas pris leur décision pour garantir la sécurité, je pense que vraiment affaire de sécurité d'un pays étranger, je pense que vraiment leur action vraiment ça ne satisfait pas la population. Il faut imaginer dans deux jours côté taliban, vraiment d'aujourd'hui, si les pays africains, si ils ont pris exemple sur ça, je pense que vraiment ils ne peuvent pas laisser leur sécurité dans la main d'un pays étranger par rapport à l'action qui était passée, c'est tout vraiment affaire d'Afghanistan. Depuis 20 ans, les armées américaines ont en Afghanistan, mais quand ils ont plié leur bagage, je pense que vraiment les talibans, ils ont pris le terrain, ils ont pris les villes maintenant. Donc, ce système, je pense que ça doit donner exemple à tous les pays, les Sahel, à tous les pays africains, pour qu'ils n'aient pas vraiment prendre leur destin en main pour laisser au moins l'intervention militaire étrangère, à mon avis. Sinon, à mon avis, je pense que vraiment dans plusieurs pays étrangers, ils ont dans la sécurité au nord du Mali, Niger, comme Burkina Faso, nos pays voisins, même jusqu'à aujourd'hui au Tchad maintenant. Mais jusqu'à aujourd'hui, vraiment, ils ne satisfait pas la population. À chaque fois, au moins, les Maliens, ils ont perdu leur vie. Même hier, il y a des gens qui ont été tués et leurs chiens. Au moins 37 personnes, les jeunes sont dedans avec les numères, avec les femmes. Donc je pense que vraiment, affaire des terroristes, c'est pas facile pour lutter contre eux, parce que ceux qui financent eux, je pense que vraiment, mais c'est lourd, parce que affaire des terroristes, ils sont en train de financer avec plusieurs matériels que vraiment les armées nationales et n'est pas cet matériel. Mais cet financement, ça quitte où? Voilà la question que je pose maintenant d'aujourd'hui, à mon avis.
Monsieur Diarra, est-ce que vous créez un chaos si l'opération Barkhane prenait fin dans le Sahel?
Bon, l'opération Barkhane, je pense que vraiment, elle ne fait pas leur boulot, parce qu'ils ont là, mais jusqu'à aujourd'hui, au nord du Mali, il y a attaques qu'ils ont multipliées, mais ils ont là pour faire quoi? Ils sont là pour vraiment piller nos au moins ces ressources naturelles avec par rapport aux ressources des sols. Sinon, à mon avis, je pense que vraiment depuis longtemps les Barkhane sont là, mais les actions qui étaient passées au nord du Mali avant-hier, on dit les Barkhane, ils ont été passés au moins, ce n'est pas fait au moins c'est 10 minutes ou bien 30 minutes. Et cette opération, ça a été fait avec plusieurs personnes qui étaient sur une moto, avec ils ont été deux personnes. Sur une seule moto, donc ils ont allé tuer certaines populations dans leur champ. Ou bien les Barkhane, ils ont des coups de fil avec les rebelles. Voilà la question que je pose, parce qu'aujourd'hui, il faut imaginer que vraiment l'intervention militaire au Mali d'aujourd'hui, vraiment, je ne vois pas et leur rôle qu'ils sont en train de satisfaire la population, parce qu'ils sont venus pour donner au moins coup de pain à nos coup de main avec nos armées maliennes, avec la population, pour que la sécurité doit garantir, mais c'est au contraire. Donc je pense que vraiment ils doivent partir dans
nous vous remercions beaucoup. vous avez exprimé la même chose que Gaston Convolvo, qui pense que c'est aussi un problème de malgouvernance. Notre dernière intervenante en RDC est Badou Kingston. Si les Africains étaient unis, cela pourrait peut-être résoudre les problèmes. Bonsoir Ibadou, vous avez 30 secondes pour donner votre point de vue.
Oui, bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs. Tel que j'avais déjà écrit dans mon commentaire là, ce qui montre qu'aujourd'hui, si l'Afrique était vraiment soudée, on n'allait pas avoir des problèmes.